Bonjour, bienvenue pour cette toute dernière édition de la semaine de 90 minutes info. Le programme, les thèmes de débat avec nos invités, ce sera juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
Paco Rabanne est décédé ce vendredi. Le couturier espagnol a marqué l'univers de la mode pendant plus d'un demi-siècle. Sa créativité a influencé toute une génération. Il était surnommé le prophète de la mode. Il s'est éteint en Bretagne, près de Brest, à l'âge de 88 ans. Les transports en commun, bientôt gratuits à Montpellier. La gratuité a été adoptée hier matin en Conseil de Métropole à une large majorité. La mesure entrera en vigueur le 21 décembre 2023. Elle coûtera 42 millions d'euros par an selon la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Et puis un engin volant chinois détecté dans l'espace aérien des États-Unis. La Chine regrette l'entrée de ce ballon sans pilote. Elle dit ne pas vouloir monter les choses en épingle. Il vole depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord et de sites militaires sensibles.
Et ce sera à la une de notre émission dans un instant. Nous parlerons de l'augmentation du trafic et de la consommation de stupéfiants dans notre pays avec, vous le verrez, des habitudes qui changent.
Les chiffres montrent qu'il y a une légère inflexion des usagers de cannabis ces dernières années. Il y a une consommation forte, par exemple, de cocaïne. Donc, que les services de police luttent contre le trafic, c'est plutôt assez encourageant.
Trop de pédagogie, tutelle le propos. Elisabeth Borne, venue défendre une réforme impopulaire, s'est un peu pris les pieds dans le tapis hier.
Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues ?
Ah, c'est une colle.
Très bien.
J'ai trouvé la Première ministre à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays. Je l'ai trouvée peu convaincante dans ses explications.
Et si les grèves dans les transports étaient interdites pendant les vacances, une députée est allée jusqu'à déposer une proposition de loi en ce sens.
J'ai déposé cette proposition de loi pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires, notamment les jours de grand départ, les jours de grand retour, parce que je considère que les Français doivent avoir ce droit de voyager en toute liberté sans être pris en otage.
L'équipe du jour pour m'accompagner. Bonjour Ludovine de la Rochère, merci d'être là. Merci à vous Céline Pina également, bonjour. Ainsi que Pierre Lelouch pour cette édition du vendredi. On va parler des Cévenols. Les Cévenols qui sont toujours sous le choc de la mort insensée de 6e âgé d'à peine 18 ans. L'enquête a déjà vite progressé mais reste encore à déterminer le mobile du meurtrier et les circonstances de sa mort. Stéphanie Rouquier est sur place.
24 heures après l'annonce du décès de Siem, la douleur est encore vive pour les habitants de cet ancien bassin minier. Ici, tout le monde était au courant de la disparition de cette jeune femme. Beaucoup d'entre eux participaient aux recherches ou partageaient sur les réseaux sociaux l'avis de recherche. Des habitants concernés donc qui demandent désormais à la justice de faire son travail. Pour les proches de Siem, ils sont toujours entourés par de nombreux amis ou voisins unis face au drame. Dans ce petit lotissement où vit toute la famille, depuis des années, tous les voisins nous expliquent et qu'ils connaissaient cette jeune femme qu'ils qualifiaient de simple, discrète et gentille. Des voisins qui connaissaient aussi l'homme de 39 ans qui a avoué avoir tué la jeune femme. Et là, beaucoup nous ont expliqué qu'ils s'en méfiaient. Tout le monde savait qu'il avait un lourd passé judiciaire. Aujourd'hui, l'autopsie de Siem sera réalisée. Elle permettra sans doute de lever les zones d'ombre du dossier et de connaître les circonstances précises de la mort de la jeune femme.
Le choc donc, l'effroi, la colère aussi, beaucoup de colère, vous allez l'entendre à travers le témoignage d'habitants de cette petite localité qui la connaissait.
L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère d'une famille et de toute une commune.
Qu'on est tous dévastés, c'est horrible.
Moi j'ai une petite, elle a un an, si on fait ça à ma fille, mais...
Plongée dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
C'est une crapule, là. C'est ce qu'il faut dire. Hein. J'espère qu'il sera lourdement puni.
Le principal suspect est devenu meurtrier, un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol, vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison et devait par ailleurs être jugé cette semaine dans une affaire de vol à main armée.
Il n'était pas en prison. Il a tué une gamine de 18 ans. Il n'a rien demandé. Moi, franchement, je serais à la place de la justice. J'aurais honte.
Dans l'attente de réponse, la famille de Siem a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
Ludovine de la Rochère, vous comprenez la colère dans la voix de ses habitants parce que voilà, il y a toujours cette idée que la justice, en l'espèce, a été laxiste, que cet homme n'avait rien à faire dans la nature et que sa mort aurait pu être évitée, bien sûr.
Alors, bien sûr, je comprends l'immense chagrin, la douleur et l'émotion, bien entendu. Manifestement, c'était un homme qui avait déjà posé de très graves problèmes. Cela étant dit, pas de l'ordre du viol ou du harcèlement sexuel ou d'attouchement ou que sais-je. Et ça n'était pas de cette nature-là. Il a bénéficié, d'après ce que je sais, de remises de peine. Et effectivement, la question, c'est de savoir si les remises de peine ont été trop laxistes. Pour autant, j'entends parfois dire qu'il faut remettre en cause les remises de peine. Je ne suis pas sûre qu'il faille complètement les remettre en cause. Mais peut-être y a-t-il un curseur mal réglé. Ce qui est vrai, c'est que compte tenu des délits et des faits précédents, c'est qu'on peut imaginer que la justice n'envisageait pas qu'il passe à ce stade-là, oui, en termes d'actes criminels. Alors, est-ce qu'il faut accuser la justice? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Ça me paraît compliqué, en fait, sans avoir plus de détails, bien sûr, sur le dossier.
Pierre Lellouche, compte tenu, comme elle le dit, des raisons qui avaient fait qu'il avait été condamné, il n'y avait pas forcément d'indices ou de faisceaux qui allaient dans le sens d'un crime, tout au moins. Enfin, on ne sait pas si ça sera requalifié en assassinat, mais d'un meurtre.
Écoutez, moi, je suis très réticent à commenter quelque chose dont je n'ai pas d'éléments précis. Je sens qu'il y a énormément d'émotions. C'est normal, il y a une jeune fille qui vient de se faire assassiner, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations, ni sur les conditions de sa mort, ni sur ses liens avec l'auteur présumé. On sait rien, en vérité. Donc, je ne vais pas commenter quelque chose que je ne sais pas. Et deuxièmement, je n'ai pas l'itinéraire judiciaire de cet homme-là. Il avait été condamné, il était relâché.
14 condamnations en tout.
Voilà, donc c'était un bon client de la justice. Mais, comme le dit Mme de la Recherche, jusqu'à présent, ce n'était pas des crimes de sang. Donc, voilà, il avait...
C'est normal, Céline Pina, dans ces cas-là, que l'émotion prenne le pas sur la raison, finalement, et qu'on ne comprenne pas des décisions judiciaires passées. On a tendance à peut-être un peu refaire l'histoire aussi dans ces cas-là.
On la refait toujours. Quand vous êtes face à un drame, la première chose que font les gens, c'est de raconter, re-raconter comment ça s'est passé, comment on aurait pu l'éviter. C'est probablement un processus pour digérer quelque chose qui est en fait insurmontable. Je pense que c'est une réaction qui est juste humaine. Après, on peut comprendre l'émotion et la colère tout simplement parce qu'on a une accumulation de faits divers dans lesquels il y avait des hommes qui auraient dû ne pas être là. Lui, par exemple, ce qui pose et ce qui indigne les gens, c'est qu'il allait paraître en comparution et que les gens se disent, mais étant donné que c'était une récidive, qu'il avait déjà fait des attaques à main armée, pourquoi est-ce qu'il n'était pas en préventive à ce moment-là? Il y a la question des remises de peine, il y a aussi tous les drames que l'on a vus où les personnes n'auraient pas dû être là. Donc je pense que c'est cette accumulation qui fait une telle déflagration, une telle détonation. Aussi la jeunesse et la beauté de la jeune fille. Voilà, tout le monde se projette, tout le monde se dit, et si c'était mon enfant?
Oui.
Et contre ça, on ne peut rien faire.
Alors, nous sommes en ligne avec le psychiatre Jean Dorido. Bonjour, merci de nous rejoindre. Justement, parlons de l'âge de cette jeune fille de Siem. L'âge de ceux qui sont tués aux mains de leur bourreau, c'est toujours quelque chose c'est un facteur, disons, qui renforce le sentiment d'injustice parce que, voilà, on est vulnérable et quand on est une jeune fille de 18 ans, on peut pas se défendre. On l'a vu aussi dans l'affaire Lola précédemment. Je pense qu'il y a un facteur âge qui prend le pas sur tout le reste dans ce genre de meurtre.
Oui, bien sûr, effectivement, vous faites une fine analyse. Vous avez très très bien décrit cette situation qui convoque l'imaginaire collectif, une jeune femme qui est précisément mécaniquement sans défense, 18 ans, toute la vie devant elle. Et cet élan de la jeunesse, oui, il est stoppé en plein vol dans des circonstances absolument sordides. Et oui, bien sûr que, vous l'avez dit, ça déclenche une émotion qui l'emporte sur tout le reste. Vous avez évoqué, bien sûr, l'affaire Lola très récente. Il y a déjà plus de 10 ans, en 2011, les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'affaire Laetitia Perret qui avait été violée, assassinée par Tony Meillon, qui a été condamné depuis pour ça et qui venait de sortir de prison. On était en plein dans la fameuse question de la récidive. Comment faire pour prévenir le maximum la récidive? À l'époque, c'était M. Nicolas Sarkozy qui était président de la République et il avait fait une sortie là-dessus en disant qu'il allait prendre des mesures. Bien sûr, la magistrature avait réagi puisque les pouvoirs sont séparés dans notre démocratie. Pour autant, oui, bien sûr que ça crée une émotion qui est bien légitime devant l'ampleur du drame.
Je parlais du choc que ça crée dans cette petite communauté, parce qu'il faut bien comprendre quand même que dans ce bassin minier Cévenol, on est aux alentours d'Alès, pour ceux qui connaissent la région. Enfin, moi, je suis gardoise, donc ça me parle aussi.
J'ai fait toutes mes études, enfin, lycée à Alès.
Ça évoque forcément quelque chose. Tout le monde se connaît, les familles se fréquentent depuis 10, 20, 30 ans. À l'époque, on exploitait encore le charbon dans cette région. Jean Dorido, est-ce qu'il y a aussi, du fait que c'est une petite communauté très resserrée, un peu de sentiment de culpabilité de ne l'avoir pas pu protéger cet enfant, quelque part?
Alors ça, écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a très vraisemblablement une cellule psychologique, j'imagine, qui a été menée pour précisément faire en sorte de, au moins, faire le tri, aider les personnes qui en ont le plus besoin, parce que il était effectif que des personnes peuvent être vraiment sous le choc. On peut vraiment avoir même des situations de stress post-traumatique chez des personnes qui simplement sont à proximité d'un tel drame. Et ça, effectivement, oui, c'est vrai qu'il est fréquent qu'un sentiment de culpabilité puisse apparaître quand une personne a été témoin, ou en tout cas a été très très proche d'un crime, évidemment. Et puis, sans doute, vous l'avez dit, en plus de la culpabilité, les émotions, c'est un tourbillon émotionnel dans ces cas-là, sans doute, oui, de la colère. Vous l'avez dit, tout le monde se connaît. C'est vrai que ce monsieur, on a envie de dire, il était connu comme le loup blanc, il faisait peur. Et manifestement, dans la presse, il y a des personnes qui témoignent, elles avaient peur de ce monsieur très impulsif, volontiers violent. Et sans doute que oui, culpabilité, colère, hélas, tout ça doit se confondre, se mélanger dans une partie de la population. Oui.
J'ai une dernière question concernant cette fois le profil du meurtrier présumé. J'ai lu dans la presse, de la part d'un expert qui avait eu affaire à lui, hein, dans le courant de son parcours judiciaire, que c'était, à son sens, pas ce qu'on appelle un profil psychiatrique, mais criminologique. Quelle est la nuance? Quelle est la différence?
Ah ben la nuance, si vous voulez, là, en tout cas, sur l'aspect de la criminologie, la nuance est très claire. C'est qu'un profil psychiatrique, c'est précisément quand une personne est inaccessible à une sanction pénale parce qu'elle est dans une situation d'abolition du discernement. Donc, ça veut dire qu'elle n'est plus avec nous, elle ne partage plus la même réalité que nous. Et donc, depuis très longtemps, depuis Platon, on ne juge pas les fous, avec ou sans guillemets. Et puis, depuis quelque temps, il y a la notion aussi d'altération du discernement qui est apparue et qui peut amener une cour d'assises à diminuer une peine. Et typiquement, quand un profil n'est pas psychiatrique, ça veut dire que précisément, la personne n'est pas malade, au sens médico-légal du terme, ça veut dire qu'elle est accessible à une sanction pénale, ce qui manifestement, d'après ce rapport d'experts, est précisément le cas du monsieur présumé innocent pour le moment et principal suspect dans cette affaire.
Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il est passé aux aveux relativement rapidement.
Pas forcément. C'est une question différente parce que des personnes peuvent faire, par exemple, des épisodes délirants. Des personnes qui sont atteintes d'une pathologie psychiatrique peuvent être dans un délire et malgré tout se souvenir, une fois revenus dans leur état, je dirais, normal, et à ce moment-là avouer. Donc non, là, c'est sans rapport en réalité.
D'accord. Merci beaucoup, Jean Dorido, d'avoir été des nôtres cet après-midi. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et qu'on a plaisir aussi à vous recevoir sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. J'aimerais qu'on écoute Alain Bauer. Alain Bauer, vous le connaissez tous, criminologue, spécialiste de toutes ces affaires. Il nous explique pourquoi, selon lui, la justice peine à incarcérer certains criminels.
Nous avons un système qui a atteint un tel degré de complexité que, à la fin de la fin, au moment où c'est le plus tardif et au moment où il n'y a plus d'autre solution que la prison, on bourre nos prisons de gens dont une partie n'ont rien à y faire, ils ne sont pas poursuivis pour des violences, et une autre partie devrait y être et n'y est pas parce qu'ils profitent des complexités et des difficultés du système. Et aujourd'hui, nous avons trop de prisonniers dans trop peu de prisons.
Ça explique, c'est peut-être un début de réponse sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Ludovine de la Rochère.
Oui, effectivement, il y a des peines, il y a des délits d'ordre financier, par exemple, abus de biens sociaux, etc. Ça ne met pas en danger la société, ça ne met pas en danger autrui. Donc, mais ce sont des personnes qui ont commis des actes illégaux, bien entendu. Est-ce que dans ce cas-là, c'est en prison qu'ils doivent aller et est-ce qu'ils ne prennent pas la place de personnes, enfin si je puis dire, mais de personnes dangereuses pour les autres qui mettent la vie en risque est-ce qu'il n'y a pas, je mets des gros guillemets, une gestion qui ne convient pas et n'est pas la plus adaptée possible pour protéger la population, pour protéger les habitants du pays. Il y a peut-être quelque chose à réguler. Alors en même temps, c'est vrai que face à des actes illégaux, par exemple financiers, qui sont très graves, la sanction de la prison ou la menace de la prison, théoriquement, elle est un facteur d'efficacité pour éviter de tels actes. Donc la question est peut-être plus compliquée qu'il n'y paraît, mais c'est vrai qu'on voit bien, et on le voit malheureusement régulièrement, les Français ne sont pas complètement protégés de personnes que l'on sait dangereuses. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Mais c'est peut-être pas donc seulement la justice, c'est peut-être aussi le législateur qui doit, j'allais dire, revoir sa copie.
Pierre, il faut relégiférer en matière de...
J'ai été législateur et ouais. Je suis aussi juriste. Je vois pas très bien comment on peut, dans une démocratie, remplacer le système de l'individualisation de la peine en une espèce de mise à l'écart de la société. Alors évidemment, c'est tentant... Je partage, moi, évidemment, que quelqu'un qui a fait, qui a été condamné 5 fois, qui a été en prison 10 années, qui a passé l'essentiel de sa jeunesse entre 4 murs, qui est violent en prison, enfin, le gars en question, il semble avoir un passé plus que lourd. Maintenant, à moins d'être dans un système d'exception, je vois pas qu'on prenne une personne comme celle-là, même dangereuse, pour la mettre au trou pour le restant de ses jours. Parce que s'il s'agit effectivement de protéger la société et d'éviter tout dérapage au cours de sa vie, le mieux, si ce n'est pas serait intérêt, encore que là, apparemment, il avait recommencé à travailler, d'après ce que j'ai lu, mais je n'ai pas vu le dossier précis.
Il y a eu des moments de rechute, c'est-à-dire qu'il s'était réinséré à la faveur d'un mariage.
Il a essayé de vivre avec une femme.
Il a
eu un enfant, il a essayé de travailler un peu,
Je ne voulais pas dire qu'il fallait
La question, c'est est-ce qu'il faut donner une chance aux gens de se réinsérer ou est-ce qu'on considère que, on va dire, au bout de tant d'années de prison et tant de nombre d'infractions, on les met à l'écart de la société, on les met dans des camps de... Mais sur la base de quoi?
Moi, je voudrais dire...
Il faut éviter que l'émotion nous conduise à fabriquer des règles qui serait complètement antinomique par rapport à notre pays.
Il faudrait peut-être mieux aller beaucoup plus vite en prison pour des faits très graves et des faits de violence et qui mettent en danger autrui. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des peines qui se succèdent, des jugements qui se succèdent et l'arrivée en prison, si elle a lieu après des faits multiples, répétés, etc. Et ça, c'est très mauvais. Ce qui est stoppé très vite ou ce qui est sanctionné fermement et très rapidement...
Efficace. Il a passé beaucoup de temps en prison malgré son jeune âge.
Mais ce serait intéressant, mais je ne sais pas, de voir au bout de combien de temps et de combien de condamnations il a été en prison.
On parle un peu dans le vide parce que la réalité, c'est qu'on a un taux d'exécution des peines qui est relativement bas en France.
Oui.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas de peine de place de prison. Donc on essaie d'adapter un petit peu comme on peut.
Oui, mais dans ce cas,
vous ne croyez pas si bien dire, pendant que vous parlez, on va vous montrer le carton justement pourcentage de ceux qui effectuent leur peine.
Voilà, et qu'effectivement les magistrats à un moment donné se trouvent face à une difficile réalité. Dans ce cas particulier, ce qui va vraiment cristalliser les choses, c'est le fait que le quelques jours après la mort de cette jeune femme, il aurait dû passer pour être en jugement, pour être condamné. Et oui. Ce que tout le monde dit, c'est pourquoi un individu avec une telle dangerosité a réussi à comparaître libre. Voilà ce qui se cristallise la colère, voilà ce qui interroge. Mais Étant donné qu'il n'y a pas de place de prison, cette question-là, elle est récurrente et ce n'est pas avec ce cas-là qu'on va la résoudre.
Mais il faut savoir que, pardon, mais la loi aujourd'hui, c'est qu'une peine de 2 ans ou moins de prison ferme n'est pas exécutable. C'est même la loi qui l'a prévue parce qu'il y a aussi une obsession, pour ma part malsaine, qui est de tout faire pour ne pas mettre en prison à peu près quels que soient les faits. Alors, je parle pas de crime, mais je parle de faits suffisamment graves pour une condamnation à 2 ans de prison. Et on dit il faut faire la peine en milieu ouvert, c'est-à-dire avec un bracelet électronique,
en fait,
etc. Dans certains cas, ça n'est pas efficace.
On retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux sanctionner par des peines de prison courtes, mais dès la première infraction.
C'est ce qu'on dit à propos de la justice des mineurs,
voilà,
d'ailleurs,
exactement. Hein, qui est préconisée de plus en plus. Adultes, on dit qu'il vaut mieux sanctionner tout de suite, même si la peine doit être courte, que laisser passer 10, 12 condamnations avant qu'une peine très lourde ne tombe.
Oui,
et ça paraît
fois,
très cohérent.
Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On ne cesse de le répéter d'ailleurs sur ce plateau au fil de tous les faits divers plus ou moins ragoûtants qui arrivent trop souvent dans notre pays. Mais quand même, dans le cas présent, ce type, il a passé la moitié de sa vie en prison. Il a été condamné sans arrêt.
Ça n'a pas calmé, visiblement.
Regardez,
on va se quitter sur cette citation d'un cousin de la défunte, un cousin de Siem, qui dit ceci à propos de cet individu. Il dit « Ce qui nous touche, c'est qu'il était en liberté. S'il y avait eu des moyens, dit-il, mis par l'État à disposition de la justice afin qu'il puisse être jugé plus tôt, eh bien, selon lui, on aurait pu éviter le drame. » Mais bon, voilà, c'est une conversation sans fin. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, il va falloir avoir quelques éclaircissements sur l'enquête, sur le mobile aussi, parce que ça déterminera évidemment le type de procès qu'il aura par la suite. Merci pour cette première partie. On va s'interrompre et puis on reviendra pour parler du trafic de drogue qui augmente dans notre pays avec une consommation de stupéfiants aussi qui change de nature. On consomme moins de cannabis et plus de cocaïne. À tout à l'heure. Lui aussi est ravi de vous retrouver. J'ai nommé Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le célèbre couturier espagnol Paco Rabanne est mort à 88 ans, créateur et homme d'affaires visionnaire. Il a su pendant plus d'un demi-siècle incarner une autre idée de la mode. Après avoir décliné sa célébrité en parfum, il avait aussi défrayé la chronique par son goût du paranormal. Il disait avoir eu plusieurs vies et être âgé de près de 75 000 ans. Paco Rabanne est décédé dans sa résidence de Portsall, près de Brest. Les Français se serrent la ceinture face à l'inflation. Les ménages ont diminué leur consommation de produits alimentaires. Jamais une telle baisse n'avait été observée. Les précisions de Sarah Fenzari et Olivier Gangloff.
Les Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marquée, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter.
Un peu plus attention, mais voilà, pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim, c'est déjà beaucoup.
Malheureusement, quand on est retraité, on fait 2 fois plus attention à son porte-monnaie. Mais on prend le strict minimum, quoi.
En 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, les consommateurs achètent moins et surtout sont poussés à comparer les prix.
Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les promotions et puis j'achète, je me dis tiens je vais manger ça et ça, puis j'arrive dans un magasin, je vois que ben, c'est trop cher, donc du coup ben, je regarde ce qu'il y a en promotion, mais je mange autre chose et puis je m'adapte.
S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et légumes.
La viande j'en prends plus parce qu'elle est très chère la viande, tout ce qui est viande, jambon et tout ça j'en prends plus.
Le poisson, la viande, les légumes un peu. Hein. Ça commence, hein. Acheter des légumes, là c'est cher.
Et la tendance devrait se poursuivre. La grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
Alors l'inflation, c'est aussi la hausse des prix de l'énergie. Depuis hier, le coût de l'électricité a augmenté de 15%. Une augmentation qui touche aussi la plupart des municipalités, la plupart car une commune en Alsace est nettement moins impactée que les autres. Depuis 15 ans, elle est autonome en électricité pour ses bâtiments municipaux. Et aujourd'hui, elle revend même une partie de sa production. Les explications de Mathilde Couvillé-Fornois.
Plus de factures d'électricité grâce à cette rivière. Une mini-centrale hydroélectrique dotée de 3 turbines a été installée dans le village de Muttersholz en Alsace. Une installation qui a permis à la commune d'économiser environ 43 000 euros par an pour ses services publics.
Non seulement nous n'avons plus de facture d'électricité, nous sommes juste assujettis à la taxe d'utilisation du réseau public qui appartient à Enedis, donc la fameuse TURP, mais 90% restants, nous continuons à revendre et à facturer.
Ce qui est revendu se chiffre à environ 60 000 euros. La commune ne consomme que 10% de sa production d'électricité. Même si Muttersols produit 3 fois plus d'énergie que nécessaire, d'autres objectifs restent à atteindre.
Ici, on voit qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. On est autonome que à 7%, donc il y a 93% de nos besoins énergétiques qui ne sont pas couverts par des productions locales. Donc ça nécessite encore des efforts, que ce soit des rénovations énergétiques, mais aussi des productions d'énergie renouvelable supplémentaires.
À terme, la municipalité souhaiterait que ses habitants bénéficient aussi d'une baisse de la facture d'énergie pour que la commune soit entièrement autosuffisante.
Et puis ça y est, la destruction du Signal a débuté aujourd'hui à Soulac-sur-Mer en présence des ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard. Cet immeuble de 4 étages était devenu le symbole de l'érosion côtière et du recul des plages sur le littoral atlantique. En 1967, il se trouvait à 200 mètres de l'océan. Il est aujourd'hui à une 20aine de mètres seulement de l'eau. Des milliers d'autres logements sont également menacés ailleurs sur la côte. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
Merci beaucoup Mickaël et je vous souhaite un excellent week-end. J'aurai plaisir à vous revoir bien sûr lundi pour le retour de l'actu. Toujours en compagnie de Céline Pina, Pierre Lelouch et Ludovine de la Recherche pour notre débat. On va parler du cheval de bataille de Gérald Darmanin, vous le savez. C'est la lutte contre le trafic de drogue avec un premier bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022, donc l'année écoulée. Et on y voit que le nombre de mis en cause pour trafic et pour usage de stupéfiants a augmenté en 2022. Alors moins vite, c'est vrai, qu'en 2021, mais les explications sont signées Maëva Lamy.
C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022, un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022, un chiffre là encore en hausse, plus 4%, c'était plus 13% en 2021. Une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité SGP Police.
Depuis quelques années, nous avons l'amende forfaitaire délictuelle qui est entrée en vigueur et qui est là pour lutter contre l'usage. Donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage. Donc les chiffres augmentent. En 2021, ça avait explosé avec l'entrée en vigueur de l'AFD. Ce sont des chiffres qui sont pour le moins normaux d'après moi.
Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
Bonjour Jérôme Gimenez, vous êtes porte-parole Île-de-France d'UNSA Police. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Vous avez entendu le reportage à l'instant, visiblement il y a encore beaucoup de travail. Vous le rejoignez votre collègue lorsqu'il dit finalement ce nombre, il faut le voir aussi à la lumière des amendes qui sont dressées, qui n'existaient pas avant.
Oui, ça c'est très important. Et c'est Yann Bastière que je salue, il a pleinement raison. Pour mémoire, l'amende forfaitaire délictuelle, hein, en 2021, il y a eu 200 000 infractions constatées sur la matière du cannabis. Donc oui, bien évidemment, depuis que le policier a si vous voulez, cette possibilité de pouvoir constater une infraction, donc un détenteur de produits stupéfiants avec une faible quantité et de pouvoir dresser très rapidement une contravention, cela fait aussi grimper les chiffres de la délinquance et notamment de l'usage des stupéfiants.
Mais quand même, on a l'impression qu'un point de deal éliminé, souvent à grand renfort de publicité, hein, le ministère de l'Intérieur aime beaucoup communiquer sur ça, ce sont 3 autres qui fleurissent à côté. C'est un peu l'impression que vous avez que vous, de toute façon, vous ne jouez pas à armes égales avec les trafiquants.
Alors vous savez, je vais me permettre de vous donner une anecdote. Il n'y a pas longtemps, dans le 94, les policiers avaient fait une très belle affaire puisqu'ils avaient démantelé un réseau, la WID 94, et si vous voulez, sur les réseaux sociaux, vous savez que ces dealers sont de véritables chefs d'entreprise, hein, puisqu'ils ont toujours innové, hein. Je vous rappelle également l'existence des Uberco, enfin ça c'est d'autres sujets, mais aujourd'hui en fait c'est le produit aussi qui a tendance à se déplacer depuis la Covid, et ces personnes expliquaient avec des goodies et autres, hein, parce que pareil, on fidélise les clients, hein, on est vraiment assez, on est toujours dans la nouveauté et l'invention de nouvelles stratégies de vente, c'est un vrai business. Et juste pour finir, donc, on avait expliqué qu'il y avait une intervention de police et que le trafic ne serait plus présent. Et c'était écrit, excusez-nous, nous avons pris un tac par les policiers, mais rassurez-vous, nous rouvrons d'ici quelques jours. Donc, on comprend très bien que… Et derrière tout ça, vous l'avez bien précisé, pour démanteler un trafic, un gros trafic, c'est bien souvent 6 mois d'enquête, puisqu'il faut matérialiser les faits, donc convoquer de nombreux acheteurs, user de toutes les techniques d'investigation que je ne donnerai pas ici. Mais en fait, c'est un travail qui est long, chronophage et fastidieux. Au final, on va peut-être, oui, démanteler un trafic, mais vous avez raison de le préciser. Malheureusement, dans les quelques jours, parfois les 48 heures qui suivent, vous allez avoir un nouveau réseau qui va se mettre très, très vite en place.
Juste une petite question en rapport aussi avec le sujet et les enseignements des chiffres publiés par la place Beauvau. On montre une disparité entre les territoires, dans quelle région on consomme le plus, peut-être à cause de l'accessibilité de la drogue. Est-ce qu'il y a une recrudescence, par exemple, je sais pas, en Île-de-France ou dans les départements qui sont limitrophes du port du Havre, on y viendra tout à l'heure?
Non, surtout ce qu'on constatait, c'est qu'au départ, les drogues étaient surtout dans les grandes villes et très rapidement, elles étaient enracinées dans les grandes villes et aujourd'hui, dans les villes moyennes ou en zone rurale, elles circulent abondamment. Et si elles circulent, c'est qu'il y a aussi de la demande.
D'accord. Alors, on va intégrer nos invités dans la discussion. Pierre, je vous voyais très attentif à l'instant. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils ont, et il le décrit bien, avec ce système de... Uber Sheet, enfin on ne va pas les citer parce que ça ferait de la pub en plus, mais ils ont toujours un coup d'avance parce qu'ils ont toujours la technologie aussi à leur service. Et cette notion de fidélisation permet de passer entre les mailles du filet quand on traite en business consommateur directement sans avoir à passer par des intermédiaires ou transiter par la rue. C'est plus difficile en fait.
En plus, oui, la technologie joue dans le sens du business. Moi, d'abord, je voudrais rendre hommage aux policiers parce que c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Qu'il s'agisse de démanteler un point de deal dans des quartiers où on ne veut pas voir la police et souvent c'est très dangereux, ou les enquêtes au long cours pour démanteler des groupes internationaux extrêmement organisés avec des chefs qui ne sont même plus en France. D'ailleurs, ils sont à Dubaï, ils sont ailleurs, ils peuvent être dans le Maghreb et qui pilotent des chefs de réseau qui ont eux-mêmes des petites mains dans toute la France. C'est malheureusement une pieuvre qui est en train d'abord qui se chiffre en milliards d'euros, qui fait vivre des centaines de milliers de familles dans les fameux quartiers. Hein, bien souvent, il y a un ou deux dans la même famille, fait vivre tout le monde.
C'est une économie parallèle qui est pas prête.
Une économie parallèle qui emploie beaucoup de gens.
Oui.
C'est une économie qui est en train de menacer l'intégrité des États tout proches de nous, qui sont membres de l'Union européenne. Premier visé, c'est la Hollande. Deuxième, c'est la Belgique. Nous, on n'est pas très loin à cause des ports. Les containers amènent des centaines de kilos de cocaïne depuis le Venezuela, la Colombie. Et ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars.
Justement.
Ça veut dire qu'on achète derrière ou on oblige les douaniers, les dockers, les responsables politiques dans différents pays. Il y a un vrai risque que ça bascule à un moment, qu'on soit en train de devenir ici ou là des narco-États. C'est ça.
Je voulais revenir à ça justement avec vous, Jérôme Gimenez. On a beaucoup parlé du port du Havre, de la réalité des ports d'entrée aujourd'hui. Ce sont des zones criminogènes. Il y a aussi des complicités à tous les étages. Est-ce que là, c'est aussi le travail de la police ou c'est plutôt le travail des douanes d'agir sur ce genre de périmètre?
Non, là, il faut absolument une complémentarité. Et vous imaginez que quand il y a des prises aussi spectaculaires que celle du Havre, ben, on peut aussi se poser la question, mais oui, on a fait cette découverte, mais combien passe, entre guillemets, C'est aussi ça l'interrogation. Et bien évidemment, hein, on va préciser, on va remercier le travail de l'OFAST, hein, qui pilote, qui est une agence qui pilote donc tous les acteurs pour lutter et démanteler les trafics de stupéfiants, que ce soit les policiers, gendarmes et les douanes, et, qui sont là pour centraliser les renseignements et très rapidement lancer des opérations de démantèlement. Donc ça, c'est important. Il y a aussi les CROSS, hein, donc ces cellules de renseignement opérationnelles sur les stupéfiants qui font un travail formidable pour justement démanteler ces trafics. Vous l'avez bien précisé, c'était une des priorités de Gérald Darmanin depuis juillet 2020. Je peux vous assurer que pourtant les policiers, permettez-moi l'expression, transpirent, ils passent du temps sur ce sujet parce que ça fait partie de nos instructions et on ne lâche pas, mais c'est vraiment compliqué. Il y a aussi un petit point, et je voulais rebondir sur ce qu'a précisé M. Lelouch, il a raison, il faut aussi comprendre que, si vous voulez, la multiplication des drogues, du coup, cette circulation abondante n'est pas une spécificité française. Hein. Nos partenaires européens connaissent exactement les mêmes tendances. Donc il faut aussi avoir un œil, une raison gardée par rapport à ce qui se passe en ce moment.
Céline Pina, moi ce qui me frappe quand même dans les chiffres qu'on découvre et même dans le reportage de tout à l'heure, c'est l'arrivée massive de drogues dures. Parce que la cocaïne, c'est une drogue dure. Hein. C'est plus, je ne dis pas que le cannabis, c'était un jeu d'enfant, mais enfin je veux dire, il y avait quand même un ratio de consommation qui était nettement supérieur par rapport à la cocaïne. La tendance pourrait s'inverser à l'avenir.
Manifestement, si on peut dire, la cocaïne s'est démocratisée. Elle doit être beaucoup moins chère, j'imagine, que lors de mes jeunes années, où elle semblait parfaitement inaccessible. La cocaïne, c'était de la drogue des grands cadres. Oui. On l'imaginait en mode le loup de Wall Street, mais pas forcément dans la rue. En revanche, ce qu'on voit, c'est aussi à quel point il faut des complicités pour que ça fonctionne et à quel point ces complicités sont grassement rémunérées. Grâce au procès qui est en train d'avoir lieu au Havre, on a vu que, par exemple, les employés, ceux qui gèrent en fait le recrutement des dockers, ils touchent à peu près entre 100 000 et 200 000 euros pour faire ce travail-là. Et sur une partie, doivent payer d'ailleurs les dockers. Par exemple, la personne qui, la grue qui prend les conteneurs et qui les déplace, le conducteur de grue, si on lui demande de déplacer un conteneur chargé en cocaïne, on va dire, il va toucher à peu près 50 000 euros. Les chauffeurs qui sortent la cocaïne du port touchent entre 10 et 20 000 euros. Donc on voit à quel point c'est une arme. Vous avez des gens qui, par mois, touchent 10 fois moins. Pour un service qu'on va leur demander, il va y avoir 10 à 20 000 euros à la clé. Cette puissance financière est énorme.
Compliqué, oui.
Oui, et c'est très compliqué.
De lutter contre
exactement.
La corruption.
Et la seule manière de lutter contre la corruption, ce serait d'avoir des services de renseignement. Mais vous imaginez consacrer des services de renseignement à surveiller des dockers pour regarder qui, à un moment donné, a un niveau de vie qui ne correspond pas exactement Absolument. À sa fiche de paye, c'est extrêmement compliqué. Donc on voit bien là que la force de frappe de la drogue, ce sont aussi ses moyens financiers.
Ludovine de la Rochère, et puis aussi il y a la lutte contre les filières et les routes de passage. On va peut-être voir la carte de la provenance de cette drogue dure, bon, qu'est la cocaïne. C'est essentiellement, vous l'aurez compris, l'Amérique du Sud. Elle arrive du Brésil, de Colombie, d'Équateur, et elle transite bien souvent d'ailleurs par des destinations françaises, hein, les Antilles, la Guyane notamment, avec des vols, on le sait, qui permettent, des vols réguliers qui permettent de transporter ce qu'on appelle les mules.
Il manque une flèche dans votre dessin, là.
Et quelle flèche?
Il y a énormément de drogues qui arrivent par le golfe de Guinée. Et qui
ah oui, c'est vrai,
remonte,
aussi. Enfin, bon, voilà, là,
par l'Afrique.
C'est vrai
et,
que...
Libye, Gibraltar, il y a énormément de drogues qui transitent par l'Afrique.
Il y a ce commerce qui s'établit maintenant.
Il y a même maintenant un commerce en sens inverse où la marijuana, le cannabis fabriqué au Maroc, dans le Rif, repart ensuite vers les Antilles.
Oui. Oui. Ludovine de la Rochère, un petit commentaire peut-être sur ces filières et comment s'attaquer au cœur du problème avant même l'arrivée dans les ports. Parce que là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire avec les pays producteurs en matière de coopération.
Oui, effectivement, selon les États, d'un État à l'autre, et en tout cas avec les États que l'on voit là d'Amérique du Sud, il y a des considérations ou des législations sur la drogue qui sont assez différentes des nôtres et avec une tolérance. Alors, il y a d'abord les narco-États et puis une tolérance, voire une incitation, et avec des économies qui fonctionnent là-dessus. Donc forcément, il faut qu'ils exportent. L'autre chose, c'est qu'il y a plus de consommation de cocaïne parce qu'en fait, c'est sous la forme du crack qui, en effet, est moins cher, qui est une forme moins coûteuse de cocaïne. et qui est évidemment extrêmement addictive, même si elle est moins que l'héroïne. Moi, il me semble que l'un des problèmes, c'est que si elle arrive et si elle se diffuse partout, c'est qu'il y a bien des acheteurs. Et donc, il y a peut-être du côté de l'éducation, de la prévention, d'énormes efforts à faire que, pour ma part, je ne constate pas. Je ne vois pas
de campagne
qui prévienne les jeunes des dégâts considérables et de l'addiction immédiate, extrêmement puissante, littéralement irrésistible, provoquée par la cocaïne ou l'héroïne. Et puis, il y a aussi un discours aujourd'hui qui tente à faire penser que le cannabis est bénin. Or, le cannabis, pour un certain nombre, est une étape de passage vers les Absolument. Drogues dures.
Merci beaucoup, Jérôme Gymnase, de nous avoir rejoint cet après-midi et d'avoir été notre invité. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, mais Madame de la Réaction, elle a raison à insister oui. là-dessus. Parce que, contrairement à certains, moi, j'ai vu dans ma vie professionnelle d'élus qu'il y a un continuum entre ce qu'on appelle les drogues douces et les drogues dures. Il y a un continuum. C'est un rêve que d'imaginer que les gens s'arrêtent comme ça brutalement. Il y en a qui malheureusement continuent. Et dans les pays où vous lâchez, parce qu'on ne peut plus contrôler les drogues dites douces, ou même vous les vendez librement comme en Hollande dans des coffee shops, et ben non seulement vous n'arrêtez pas les drogues douces, mais surtout vous allez exploser les votre durs. Marché de drogues dures. Et c'est ça qui est arrivé en Hollande ou ailleurs. Donc, le discours de légitimation de la drogue douce n'aide pas.
Allez, on va s'arrêter là, si Pardon vous voulez bien. Non, c'est pas grave, on va parler politique et réforme des retraites. Elle était missionnée hier dans l'émission L'Événement pour faire le service après-vente de la réforme si contestée. A-t-elle réussi l'exercice? Pas sûr du tout. Elisabeth Borne, qui n'était pas toujours claire, pas toujours convaincante non plus. Écoutez, un premier extrait.
Cette réforme, comme tous les projets de loi que mon gouvernement présente au Parlement, on souhaite rassembler au-delà de la majorité, puisque nous avons une majorité relative, et donc on va discuter avec tous ceux qui sont prêts à soutenir une réforme des retraites, et je pense que c'est le cas des Républicains.
Bon, c'est une pina forcée de constater quand même, les voix LR, c'est pas tout à fait gagné encore, hein. On sent que ça rue dans les brancards et que c'est là qu'il va falloir faire le plus d'aménagements pour s'assurer l'entièreté des voix.
Et politiquement, en termes stratégiques, il était un peu idiot d'annoncer qu'on allait donner ses voix avant de négocier, avant de savoir exactement comment les choses allaient se passer. On a tout intérêt, lorsqu'on est désiré, à savoir faire attendre l'autre. Il paraît que l'attente fait partie de la montée du désir. Donc LR aurait dû se rappeler de cette loi évidente. Au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est surtout que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer l'idée qu'en fait, à terme, la situation était insoutenable parce qu'on se retrouve avec de plus en plus d'inactifs pesant sur une de plus en plus d'actifs pesant sur une poignée, enfin le contraire. On a beaucoup d'inactifs et de moins en moins d'actifs. Et la question des retraites, elle est de toute façon devant nous. Sauf que c'est une question qui implique les temps de la vie, qui implique qu'on réfléchisse sur le marché du travail, sur l'organisation du travail. Or, le gouvernement n'a présenté qu'une réforme comptable, pondue par des techniciens qui adorent les chiffres, mais qui sont incapables de comprendre que quand une réforme est trop compliquée, elle va cristalliser toutes les oppositions, les unir et leur donner du grain à moudre. C'est la façon dont la réforme a été menée est une erreur. Pour autant, la question des retraites est encore devant nous.
Alors avant de juger de la prestation d'Elisabeth Borne et de la méthode Borne, j'aimerais qu'on écoute deux invités de l'émission hier qui, eux, donnaient leurs sentiments aussi sur ce qu'ils avaient entendu.
C'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie avec ceux et celles qui aujourd'hui sont en désaccord.
Ça manque d'empathie ce qu'a dit la Première ministre, ce que vous dites
ce soir. En tout cas, ce n'est pas la prise en compte. On a l'impression qu'il n'y a pas en ce moment un mouvement social dans ce pays. Il faut continuer la mobilisation qui a eu lieu le 31 et le 19. Et il faut l'amplifier.
J'ai trouvé la Première ministre à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays, pour l'avenir du pays. Et il faut remettre ce dossier en perspective. Je l'ai trouvé peu convaincante dans ses explications. Et rien de nouveau n'est sur la table aujourd'hui.
Alors, Ludovine de la Recherche, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission dans son entièreté, ou en tout cas ce passage, c'était le début avant le débat avec trois opposants et Gabriel Attal qui était là aussi pour défendre la réforme de l'exécutif. Est-ce que vous dites la même chose? Elle n'écoute pas du tout la rue et surtout, il n'y a pas d'empathie dans le propos.
Alors, c'est-à-dire, moi je dirais que c'était poussif, c'était un peu hésitant, c'était un peu embarrassé. Elle était plutôt gênée et il y a même eu une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Alors que la réforme, elle est complexe, c'est pas non plus, pour une femme de ce niveau-là, c'est pas non plus si compliqué que ça, d'une certaine manière. Et donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas, effectivement, la manière dont le gouvernement s'y est pris. C'est-à-dire qu'il laisse dire, par exemple, là, cette année, et pour encore 2 ans, le régime des retraites est excédentaire. Alors, excédentaire, sachant qu'il a un coût faramineux pour notre budget national. Bon, mais 2 ans, ça ne compte pas, c'est rien, c'est du court-termisme. Et donc cet argument qui est répété tout le temps devrait être balayé extrêmement vite. L'autre chose, c'est que rien n'est dit, en effet, de la natalité. Or, c'est un paramètre absolument fondamental. Et le gouvernement est tout le temps pris à partie là-dessus et ne répond jamais, mais que, bien sûr, il va travailler aussi sur cette question-là. On comprendrait beaucoup mieux.
Sinon, on fera toujours des réformes paramétriques.
Et puis la troisième chose, c'est cette question de l'âge. Enfin, c'est le nombre de trimestres qui importe. Pourquoi sont-ils partis sur ce paramètre de l'âge de manière bornée, alors que évidemment si on commence plus tôt, il est logique de s'arrêter plus tôt. Évidemment, si on a des enfants, on doit en tenir compte. Et ce qui importe, c'est la durée de cotisation. Et donc, je ne comprends pas, j'avoue sincèrement, leur approche butée sur l'âge.
J'ai gardé cet extrait, Pierre, pour vous le soumettre. Je suis sûre que vous avez vu l'émission,
vous
en tout cas, ces
extraits. Trop bonne, je sais.
L'apprentissage, alors ça...
Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues?
Ah, c'est une colle. Très bien. Ce qui est clair, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse.
Je ne sais pas, elle revient dans le passé alors qu'on lui parle du futur. Pour moi, c'est incompréhensible.
C'est d'autant plus dommage que l'apprentissage, c'est un des points, un des rares points sur lesquels Macron... 20 sur 20. Parce que là, on a vraiment, je crois qu'ils ont créé 800 000 emplois d'apprentis qui sont un accès au marché du travail. C'est pour ça que les chiffres ne dégringolent pas. C'est beaucoup à cause de ce qu'ils ont mis en place sur l'apprentissage. Et là, ils méritent d'être félicités. C'est d'autant plus dommage que
la
première
ministre... De cette manière, après avoir travaillé, il y a eu 3-4 mois de préparation de ce texte quand même.
Cela dit, c'est extrêmement technique. Je veux dire, c'est pas là que porte ma principale critique sur Mme Borne, parce que techniquement, elle est à peu près au point. Elle est haut fonctionnaire. Non, ma critique, c'est qu'elle est haut fonctionnaire.
C'est ça.
Et que, je veux dire, la retraite, ça touche tout le monde parce que beaucoup de gens travaillent très durement. Et il faut avoir, les tripes, la connaissance et la compréhension de ce que vivent vos frères dans la patrie pour leur parler avec votre cœur. C'est comme quand on s'occupe de l'Ukraine et qu'on fait de la géopolitique et que nos patrons, nos chefs politiques n'ont jamais porté un fusil parce qu'il n'y a plus de service militaire et qu'ils ne connaissent pas les pays. C'est pareil, si vous n'avez pas de sentiments forts à l'égard des gens qui souffrent et qui se disent « je vais en prendre pour 2 ans de plus », si vous ne savez pas leur parler, ça ne fait pas.
Voilà. Bon, allez, on va s'interrompre à nouveau. On est un petit peu pris par le temps, mais on va continuer à parler de la réforme des retraites et surtout des mouvements de grève qui se profilent à nouveau dans les prochains jours avec les vacances scolaires, les vacances qui débutent dans certaines zones, dans certaines régions. Dès ce soir, ça devrait tomber pile poil avec des grèves dans les transports. Certains disent qu'il faudrait légiférer comme les Italiens pour interdire les grèves pendant les vacances, en tout cas dans les transports. Il y a une proposition de loi qu'on va évoquer tout à l'heure.
C'est Madame Pina qui part en vacances.
La troisième demi-heure déjà de 90 minutes info. On va parler des vacances d'hiver qui débutent aujourd'hui pour une partie de la France. Les services de transport sont menacés par des grèves. Alors que pensent les Français de ces grèves pendant leurs vacances d'hiver? La réponse en partie avec Mathilde Courvillier-Flornoy. Après le rappel de l'info avec Adrien Spiteri, bien sûr.
Clément Beaune appelle les syndicats à la responsabilité. Le ministre des Transports leur demande de ne pas bloquer les voyageurs durant les vacances d'hiver. Il était dans l'Essonne ce matin pour échanger avec des associations d'usagers franciliens. Les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève mardi prochain. Charles Michel promet de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine, c'est l'UE, c'est l'Ukraine, a-t-il déclaré. Le président du Conseil européen est à Kiev pour un sommet aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Des sirènes anti-aériennes ont retenti dans la capitale ukrainienne ce matin. Elles se sont ensuite étendues à tout le pays. Et puis Ford fait son retour en Formule 1. Il est prévu en 2026 en tant que motoriste. Le constructeur automobile américain sera associé à l'écurie Red Bull. Un retour la même année qu'Audi. La marque allemande s'associera à l'écurie Sauber.
Allez, on essaie encore. Deuxième prise, les grèves pendant les vacances scolaires. Est-ce que c'est acceptable pour les Français? Regardez ce reportage.
Faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires? Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français s'y opposent, contre 43% qui souhaiteraient que la grève soit interdite.
La grève, c'est un droit primordial en France, donc je pense que oui, ce serait aller trop loin, mais instaurer un service minimum, ce serait, je pense, pratique pour beaucoup plus de personnes.
C'est un droit de grève, je vois pas pourquoi ça serait interdit pendant les vacances scolaires.
Le principe aussi de faire la grève, c'est d'essayer de rallier les gens à notre cause, à la cause, et de faire entendre parler de ce qui va pas, Donc quoi de mieux que d'annuler les vacances des gens, finalement.
Le sujet divise également selon les différentes tendances politiques. À gauche, 75% sont contre une interdiction de grève. À droite, ils sont 52% à partager cet avis. Alors que chez les centristes, ils sont seulement 44%. Pour cette députée, les grèves ne doivent pas paralyser la France en période de vacances.
J'ai déposé cette proposition de loi pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires, parce que je considère que les Français doivent avoir ce droit de voyager en toute liberté.
Pour rappel, une grève ne peut pas être interdite sauf dans quelques cas d'atteinte à l'ordre public. Les syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à la grève les 7 et 11 février prochains.
Pierre Lelouch a ri pendant le sujet. Alors, est-ce que c'est si fou? C'est fou pour vous? Ça s'est jamais vu, ce genre de proposition, dans le passé?
Nelly, le déconomètre tourne à plein régime.
Pardon.
Députés totalement inconnus qui ont besoin de faire connaître, d'avoir leurs 5 minutes de gloire, comme disait Andy Warhol. Donc on va tenter n'importe quoi pour faire.
Lui, c'était un quart d'heure. C'était un peu plus. Même
alors
peu
à 5 minutes, allez. Alors à 5 minutes. Mais c'est pathétique. Pourquoi les départs en vacances et pas les fêtes de Noël ou ouais. Pas le réveillon ou pas, je sais pas, le Ramadan par exemple ou la fête des bouddhistes ou le Nouvel An chinois. Je vous dis, le déconomètre tourne à plein tube. Il y a un droit de grève, il y a un combat social sur une question de fond, qui est quand même le système des retraites. Soit dit au passage, nous payons l'héritage de François Mitterrand qui a dit aux Français, tenez, 5 années gratuites, ben ça fait 40 ans qu'on rame derrière pour remonter le niveau et se mettre à peu près au niveau de nos concurrents européens. Ça pose plein de problèmes. Plus on gratte, plus c'est compliqué. Parce qu'en effet, dès qu'on met un chiffon rouge avec une mesure d'âge, ben, tout le monde est contre. Si on avait simplement continué à jouer sur les trimestres, on aurait pu ajuster le système sans en faire un drame national.
Mais enfin, sur plateau,
ils ont, comme ils ont absolument aucun sens politique et qu'ils gèrent ça ben, comme ça, donc ça se passe mal. Maintenant, quitte à supprimer le droit d'œuvre, quand même. Attendez. Quand même.
D'autant qu'on va pas se mentir, les vacances d'hiver, c'est quand même pas. Quand même. Tout le monde part pas en vacances d'hiver, quoi. C'est
alors, énervant,
c'est
quoi. Même, en plus, fait, oui. Et pourquoi d'hiver et pas d'été ouais, enfin,
puis au-delà de ça, ce que ça dit sur l'ordre des priorités de ces gens. Et ce qui est compliqué pour des personnes, vous avez un petit salaire, vous devez très tôt, vous devez être à l'heure, vous n'avez aucun moyen de négocier avec votre employeur, il y a une grève, vous n'arrivez pas à arriver au travail, c'est l'enfer pour des millions et des millions de gens, et cette dame, il lui semble que la seule chose à protéger sont
c'est les
congés. On peut se passer de congés, on peut difficilement se passer on peut dégager de salaire et de travail.
On peut partir donc, avant, après.
Bon. Voilà, mais même cet ordre des priorités dans la tête de cette dame est juste affligeant.
Y aura-t-il une voix dissonante sur ce plateau en la personne de Ludovine de la Rochère?
À vrai dire, je suppose que cette députée, qui est députée depuis longtemps, a voulu prendre en compte le fait qu'à chaque vacances scolaires, ou très, très fréquemment et en particulier à Noël, il y a des grèves. dont on voit bien que l'opinion publique les supporte particulièrement mal. Et moi, j'aurais eu pour premier réflexe de dire il faut d'abord pouvoir travailler. Où sont les priorités? Sauf que il faut bien voir qu'aujourd'hui, père et mère travaillent, que les vacances scolaires reviennent tous les mois et demi et durent 15 jours. On envoie les enfants chez les grands-parents. C'est le cas pour toute la population active en âge d'avoir des enfants. Et là, on se retrouve coincé.
L'école certains les envoient dans les centres de loisirs parce qu'ils n'ont pas le choix.
Hein. Les centres de loisirs aussi, il leur faut. Ils voyagent en train, Nelly.
Non. Les centres de loisirs à proximité. Oui, il y a des centres de loisirs qui dépendent de la mairie à côté de l'école.
Vous avez raison, mais je pense que pour une population, enfin pour des parents, les deux parents travaillent. Quand l'école est fermée, il y a un problème eux-mêmes en fait pour travailler. Oui. Donc c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Ça ne veut pas dire que c'est faisable.
Non, j'ai encore un mot justement sur la faisabilité. Pour avoir été longtemps parlementaire, je peux vous dire que entre le moment où vous faites un effet d'annonce comme ça et le moment où il se passe quelque chose dans votre proposition de loi, il y a plein de temps. D'abord, il faut convaincre votre groupe.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas évident. Deuxièmement, il faut convaincre une majorité.
Là, il y a donc c'est juste pour le buzz.
Troisièmement, il faut l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc cette dame, elle sait parfaitement que son gadget est simplement publicitaire à court terme et n'a aucune espèce de chance d'être transformée en quelque chose pendant les vacances qui arrivent, prochaines.
C'est
donc c'est Pipo et Mario, si mais vous voulez. C'est juste un peu fatigant. Un sujet vrai qui est la réforme de retraite. Vous pensez vraiment que le gouvernement va le polluer ajoutant un truc sur la limitation de la retraite?
Elle n'a certainement pas dit que c'était pour les prochaines vacances.
Ah bon,
parce que de fait, il faut la niche parlementaire dans l'agenda.
Non, c'est vrai.
Et la niche ils ont énormément de propositions.
Le rôle des parlementaires, c'est pas de se foutre des Français. Voilà.
En tout cas, il y en a un qui a une idée sur la continuité du service. C'est Clément Beaune, le ministre des Transports. Écoutez.
Bah, Clément. Quand il y a des salariés grévistes, par exemple, il y a d'autres volontaires qui peuvent remplacer, rendre service, comme conducteur, comme chef de bord, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que la RATP ou la SNCF, par exemple, font déjà, mais qu'on peut sans doute améliorer. C'est une piste sur laquelle on travaille avec la direction des entreprises publiques. Il y a la question aussi des délais, parce que quand il y a une grève, parfois, c'est un peu moins grave si on s'organise à l'avance, si on sait à l'avance. Aujourd'hui, il y a un délai de 48 heures qui est fixé par la loi d'ailleurs dite sur le service minimum. On peut regarder, mais ce sera un débat législatif qui prendra un petit peu de temps, si ces délais ne peuvent pas être aménagés ou complétés. C'est une piste de réflexion aussi.
C'est déjà un peu plus raisonnable comme initiative. Imaginez que ça puisse se renforcer.
La loi sur le service minimum, elle existe déjà, donc peut-être
oui, c'est nous
aussi.
Qui l'avons voté,
voilà,
oui,
peut-être aussi de temps en temps veiller à ce que les lois soient respectées. Ça serait peut-être un travail utile. Et enfin, sur ce qu'il propose, il faut quand même faire attention parce qu'il y a une limite au volontariat. Rappelez-vous quand même, à la base, comment est-ce qu'on cassait les grèves? On cassait les grèves en faisant des recrutements à côté, ce qui a été des fois interdit. Il y a eu toute la problématique aussi des tensions qu'il y avait entre travailleurs parce que certains se faisaient traiter de jaunes. Le jaune, c'est celui qui casse la grève en allant travailler alors qu'il y a un mouvement qui a été décidé collectivement. Bref, toutes ces questions-là, elles peuvent être très difficiles à gérer sur le terrain. Assurons le service minimum. C'est ce que la loi oblige.
Mais ça existe déjà. On n'a jamais vu une grève qui paralysait à 100%. Enfin, il y a toujours un TGV sur le
On l'a plus vu depuis quelques années, parce qu'en 1995, tout était bloqué métro parisien a été fermé.
Ça remonte un peu déjà.
Une des choses dont je suis fier, c'est d'avoir voté cette loi sous le gouvernement de Sarkozy. Non, mais il faut savoir quand Beaune dit qu'il y a des systèmes de remplacement. Oui, sauf qu'on est dans des entreprises où il manque 700 chauffeurs de bus. Plusieurs centaines de chauffeurs de métro, etc.
Et puis ça se trouve pas, le savoir-faire n'est pas une chose évidente pour n'importe qui, n'étant pas du métier. Mais par ailleurs, sur le droit de grève, de fait, en principe, elle est interdite quand il y a un trouble à l'ordre public, et je suis d'accord avec Céline Pina, appliquons la loi. On a vu que quelques dizaines de personnes, quelques centaines, pouvaient bloquer la France du point de vue des raffineries et donc de la fourniture en essence. On l'a vu il y a tout juste quelques semaines.
Il y a des réquisitions qui sont possibles.
Mais il y avait bien trouble à l'ordre public. Mais on a fait appel aux réquisitions extrêmement tard, alors qu'on pouvait considérer, alors certes, la loi, le droit n'est pas une science humaine. Le droit est très interprétable, malheureusement. Et je pense pour ma part qu'on joue de plus en plus avec les mots. Parce qu'en réalité, dès le départ, la justice, si elle avait été saisie, aurait pu considérer qu'il y avait, au bout de, en tout cas quelques jours, trouble à l'ordre public. Oui. Mais on a laissé faire. On a attendu extrêmement longtemps pour agir et peut-être pas sur les meilleurs modes.
On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de l'afflux de mineurs isolés dans les Alpes-Maritimes, ce qui pose un réel problème d'accueil, d'hébergement, de logement. Vous le verrez, on est en train de réquisitionner des hôtels, pas pour le plus grand plaisir des habitants, il faut le dire. À tout à l'heure. De retour en votre compagnie pour aborder la toute dernière partie de notre émission de ce vendredi. On va parler de ce nombre inhabituellement élevé de mineurs migrants qui franchissent depuis quelques semaines la frontière franco-italienne. Ça se passe à Menton. Le préfet des Alpes-Maritimes vient donc de signer un arrêté pour réquisitionner un appart-city qui se trouve à Antibes pour l'hébergement d'urgence de ces mineurs. Cette mesure s'étend sur une durée d'un mois. De quoi est-il question ? Solène Boulan, Franck Trivio.
C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet.
Mes voisins en ont parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis je veux dire, ce n'est pas une solution de les laisser tout le temps comme ça. Voilà, ça ne rassure pas du tout.
Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Alors, accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et en même temps peut-être avoir une organisation de logement de ces enfants de façon massive sur l'ensemble du territoire.
À Antibes, située au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et des effectifs qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir aux structures, absolument. On ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance qui relève de la compétence des départements.
Ludovine de la Rochère, ça coûte aussi. Il faut le payer, hein, cet hôtel, Cerco. C'est l'État qui paie, ce sont les contribuables aussi qui paient, en l'absence de centre d'hébergement.
C'est-à-dire que ce sont les contribuables qui paient, et puis dans quelles conditions ces jeunes sont-ils là? Alors, contrairement à ce qui a été dit, généralement, ce ne sont pas des enfants. Il y a donc une proportion relativement importante dont on soupçonne qu'ils sont en fait des majeurs, mais il est impossible de le dire. Ils déchirent leur papier d'identité, et les tests osseux qu'on peut faire ne sont pas précis. Et on sait bien qu'il vaut mieux se faire passer pour mineur, parce que dans ce cas-là, on a accès à tout, on a droit à tout, et on est protégé en France. Dans le boulevard Victor, dans le 15e à Paris, il y a un hôtel qui a été réquisitionné. Il y a des cars qui sont arrivés, de personnes qui ont été installées là. Ça a duré quelques jours. L'hôtel a été dévasté. Aujourd'hui, il est entouré de barrières, il est inaccessible et il est dans un état impressionnant. Je ne sais pas du tout qui avait été ou quelle population avait été installée là dans l'urgence, mais ce ne sont pas des solutions. Oui. Bien sûr que... il faut traiter humainement et accueillir, mais on voit bien qu'on n'est pas en mesure de le faire. On voit bien que c'est au détriment du respect des habitants de notre pays. Par ailleurs, installer des jeunes dans un immeuble enfin, ou dans un hôtel, mais dans quelles conditions? Qui veille? Qui s'occupe d'eux? Parce que finalement aussi, pour une part, on les laisse à eux-mêmes. C'est complètement contradictoire. La vérité, c'est que s'ils sont mineurs... ce sont à leurs parents. Alors certes, ils sont dans d'autres pays, mais il y a un moment donné où les mineurs, eux aussi, peuvent être raccompagnés d'une manière ou d'une autre dans leur pays. Ce sont leurs parents et non pas nous qui en avons la responsabilité. Leurs parents et les responsables politiques de leur pays d'origine. Il ne faut pas inverser les propositions. Nous passons notre temps à prendre en charge ce que nous n'avons pas à prendre en charge.
Pierre Lelouch, il y a aussi ce que dit ce policier à la fin du reportage, c'est que on n'a pas les moyens d'endiguer le flot, c'est-à-dire c'est un flot continu.
Ah bah oui.
Et il y a des points de passage, visiblement, des trous dans la raquette. Bon, ça, on le sait, parce qu'ils ne passent pas forcément par les routes. Il y a même certains qui les ont laissés passer. Hein. On se souvient du cas de cet activiste qui les faisait passer, qui avait été jugé. On a l'impression que c'est un problème vraiment insoluble.
Je suis allé plusieurs fois, là, Vintimille et Menton. La gare de Vintimille, côté italien, c'est plein de migrants qui attendent de monter dans les trains pour arriver en France. Et ils sont refoulés 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est sans fin. Et on manque de moyens pour contrôler cette frontière. La seule façon d'en sortir, c'est de contrôler la frontière. Et pas de, comme le disait M. Ginesi, l'excellent patron du département. Moi, je pense aussi à mon ami Leonetti, le pauvre maire d'Antibes. Vous comprenez, ils sont évidemment en bout de chaîne. Ils reçoivent ces enfants, ces jeunes... qui sont eux-mêmes envoyés par leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas par le Saint-Esprit. Hein. Bien souvent, c'est les familles qui mettent de l'argent, qui payent les passeurs, et on envoie le jeune, lequel jeune va finir par faire souche, se régulariser, et ensuite on fait venir la famille. Parce que c'est quand même ça le jeu. Hein. Donc il faut être complètement dupe pour dire il faut multiplier les zones d'accueil. C'est pas l'accueil qu'il faut faire, c'est les, d'organiser d'abord le contrôle aux frontières et ensuite le retour. C'est ça le sujet. Sauf que ça, c'est pas politiquement correct de le dire. Alors je vais le dire, le problème c'est le contrôle et le retour, et pas l'accueil. Parce que moi je renvoie vraiment à ceux qui nous écoutent, achetez le dernier numéro du Point et lisez la chronique de Kamel Daoud à la dernière page du journal. Kamel Daoud est algérien, c'est un homme de bien qui dit les choses, et il dit les gens ils viennent en France, non pas comme ils ont aux États-Unis pour faire des entreprises ou devenir millionnaire ou quoi. Non, non, ils viennent pour les aides. Ils viennent pour les aides et pour naviguer entre les aides. Et c'est ça le message qu'on envoie. Plus on multiplie les zones d'accueil, plus on multiplie l'impunité de ces réseaux, plus on va être noyé dessous et plus on va s'enfoncer.
Le mot de la fin, c'est Lucilla.
En fait, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, quand vous êtes migrant, à être honnête et à dire les choses. On le voit très bien dans ce cas-là. Il est probable que toute une partie de ces soi-disant mineurs sont en fait des majeurs. Il est probable que toute une partie de ces soi-disant victimes de violences viennent en fait de pays comme le Maroc ou l'Algérie, où on est quand même dans des pays qui fonctionnent, ou la Tunisie, où on est dans des pays qui fonctionnent tout à fait correctement. Donc, à un moment donné, si on veut faire baisser en fait l'appel d'air, il y a aussi des choses un peu plus coercitives à faire. On a beaucoup de mal à envisager ça, mais aujourd'hui, la question va se poser d'avoir des camps de réfugiés et de faire en sorte que si un mineur arrive, on ne peut pas le laisser dans la nature, on le met dans un centre fermé, et peut-être qu'au bout d'un mois, on saura d'où vient vraiment cette personne, et peut-être qu'il dira où est sa famille parce qu'il aura envie de rentrer chez lui. Si on le laisse faire ce qu'il veut, évidemment, il n'a pas intérêt à repartir non plus.
Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, on cède la place à Punchline, Elliot Deval, qui vous retrouve pour l'édition de ce vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous. Et je vous retrouve lundi avec grand plaisir, 15h30 pour le début de 90 minutes info. À bientôt.